On demandait à un musicien, mais comment est-ce que vous savez jouer avec un tel talent votre instrument de musique? La personne faisait de la musique depuis 40 ans, elle joue plusieurs heures par jour, c'est pas étonnant. C'est chaque jour, c'est pas tout d'un coup comme ça qu'on arrive. Et pareil, dans la peinture, on demandait à Picasso, mais comment est-ce que vous savez réaliser des choses pareilles? Il disait, le matin, je peins, l'après-midi, je peins, et le soir, je peins. Enfin, il peignait tout le temps. C'était pas difficile pour lui de composer, d'inventer, de créer des tas de choses. Et il était capable de faire aussi ce que les autres faisaient, mais il faisait des choses plus abstraites aussi. Peu importe, lui et les autres, mais c'est sûr que c'est toute une vie, c'est la consécration d'une vie qui va faire de la personne que nous sommes un véritable chrétien, un véritable disciple. C'est tous les jours. C'est pas comme ça d'une fois, là. Dieu nous a donné une révélation qu'un jour nous serions un missionnaire qui allions aller en Afrique, et puis on ne fait rien, on attend ce que Dieu va faire, et il n'y a rien qui se passera. Il y a des gens comme ça qui ont attendu toute leur vie. Ils s'attendaient à des grandes choses, il y avait un grand ministère, mais rien ne s'est passé parce qu'ils n'ont rien mis en place, ils n'ont rien mis en pratique, et forcément, voilà, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Hein. Alors, j'ai choisi de voir Samuel parce que je pense que c'est intéressant. Les petits pas de foi, je pense que c'est ce que Dieu veut nous dire ce matin. Et au travers de Samuel, je pense qu'on voit ces choses, ces petits pas de chaque jour. On le voit dans la vie de Samuel. C'est ça que j'aimerais bien voir. Donc le présent prépare notre futur. Chapitre 1er, nous voyons d'abord ceci avec sa maman. Parce que ça commence déjà avant le sein maternel. Hein. Par exemple, Jérémie, il dit que Dieu l'avait choisi. Hein, il avait déjà prédestiné à être un prophète de l'Éternel, Jérémie. On le voit dans le premier chapitre aussi. Et ici, au chapitre 1er de 1 Samuel, Anna fit un vœu. Anna, c'est celle qui sera la maman de Samuel. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, et Élie observa sa bouche, etc. Et donc, on voit Anne qui était stérile. Marie à Elkana, pas moyen d'avoir d'enfant. Et il avait deux femmes, et l'autre ricanait toujours d'Anne. Et chaque fois qu'ils allaient à la maison de Dieu, à Silo, toujours la même chose, moquerie. Des paroles méchantes et elle pleurait, tellement triste de ne pas savoir avoir d'enfant, parce que c'est important d'avoir un enfant. C'est vu comme une grande bénédiction d'avoir des enfants. Hein. Encore aujourd'hui, par exemple en Afrique, si vous voyez l'Afrique, ne pas avoir un enfant, c'est une catastrophe. Hein. Ici, on voit des couples qui ne veulent pas d'enfants. Mais il y a des endroits où ne pas avoir d'enfants, c'est vraiment c'est une catastrophe. C'est pas du tout ça qu'on désire, et socialement, c'est quelque chose qui est pas bien vu. Et donc, elle était fort triste, et elle dit à Dieu, mais si tu me donnes un enfant, un mâle, il sera à ton service, je te le prêterai pour la durée de ses jours. Et dans le cours de l'année, Anne, Élie va bien sûr parler avec elle, va lui dire, eh bien, que le Seigneur fasse ce qu'il a demandé, ce que tu lui as demandé, qu'il accomplisse ton désir. Et c'est ce qui va se produire dans le cours de l'année. Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Dieu a exaucé, Dieu a entendu et Dieu a exaucé la prière d'Anne. C'est ce que signifie Samuel. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi, c'est verset 26, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et se prosternèrent là devant l'Éternel. Donc, ils sont retournés à Silo. Ils ont eu cet enfant.
Anne a eu l'exaucement de sa prière, mais ne s'est pas, elle n'a pas oublié la promesse. Elle avait fait une promesse, c'est d'offrir son enfant à Dieu. Elle aurait pu dire, ouais, bon, j'ai un peu exagéré avec ce que j'ai dit, quand même, je vais le garder, enfin, j'ai un fils. Non, mais elle a obéi à ce qu'elle avait fait comme vœu, parce qu'une fois qu'on fait un vœu, il faut aller jusqu'au bout. Elle va jusqu'au bout, elle va encore pleurer ici, parce qu'elle va devoir se séparer de ce fils. Elle a pleuré pour l'avoir, mais maintenant elle va pleurer parce qu'elle l'aura plus. Et chapitre 2, verset 11, Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Il va être prêté, il va être au service directement de Dieu, au travers du serviteur Élie. Verset 21, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta 3 fils et 2 filles, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Le jeune Samuel grandissait. On va voir de quelle manière. Ça fait penser à Jésus qui grandissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Et on voit donc au verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Donc, ça veut dire qu'il servait Dieu de tout son cœur, tout petit. Tout petit. Il faisait ce petit pas de foi, ce petit pas d'obéissance. Il faisait ce qu'il devait faire jour après jour, instant après instant. Et voilà, pas des grandes choses, des choses toutes simples. Chapitre 3, verset 1er, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il était au service de l'Éternel. Pas au service d'Élie, mais j'aime bien la différence, hein. Pas seulement au service de quelqu'un, mais au service de l'Éternel devant Élie. Et là, il sert Dieu déjà devant Élie, qui est son guide, hein, spirituel évidemment, il apprend la parole, etc. Et verset 10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel. Donc pendant la nuit, Samuel entend une voix qu'il ne connaît pas, et c'est la voix de Dieu. C'est la première fois qu'il entend la voix de Dieu. Il sert déjà Dieu depuis pas mal de temps, mais il ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Et Samuel lui répondit, parce que ça va arriver par 3 fois, il va aller trouver Élie. Écoute, j'ai entendu cette voix-là, c'est toi qui m'appelles, voilà, je suis là, etc. Non, va te recoucher, c'est pas moi. Et puis pour finir, Élie lui dit, mais c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle. Tu as entendu la voix de Dieu. On va te recoucher. Et s'il t'appelle encore, tu lui diras, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Et il se remet dans son lit. Je ne sais pas s'il sait redormir tout de suite avec ça. À mon avis, il s'attendait à ce que Dieu lui parle. Et c'est ce qui va se passer. Il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Et il ne va jamais s'arrêter d'écouter Dieu. Extraordinaire. Et c'est bon pour nous. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Est-ce que nous sommes à l'écoute de Dieu, c'est aussi. Alors, verset 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Quand il entend une prophétie, il n'oublie pas un petit peu plus tard en disant, oui, bon, est-ce que c'était Dieu, est-ce que c'était un homme, est-ce que c'était qui, c'était moi, mes pensées. Non, il retient les paroles prophétiques, il retient la parole qu'il a reçue, la parole qu'il entend de la bouche d'Élie quand il s'agit des commandements ou quoi que ce soit, mais la parole que Dieu lui parle par l'Esprit Saint, il retient cela, il retient dans son cœur. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. La conséquence d'une vie passée avec Dieu va être une caractéristique que les autres vont voir. Les autres vont découvrir que nous sommes des hommes et des femmes de Dieu, comme avec Élisée. La femme avait reconnu que c'était un homme de Dieu. Donc, les gens qui vont nous entourer, qui vont être dans notre environnement, vont découvrir qui nous servons en fait. Et je crois que c'est tellement important. Les bonnes habitudes que nous prenons à écouter Dieu, à obéir à Dieu, à faire les pas qu'il nous demande, ça se verra à l'extérieur. On ne fait pas pour ça, bien entendu, mais c'est une conséquence puisque nous sommes appelés des témoins. Ça doit se voir. Le témoignage de quelqu'un doit se voir. Il doit s'entendre, mais il doit se voir aussi. Et donc, forcément, nous sommes des témoins. Ça veut dire que les yeux des gens sont sur nous, les oreilles aussi. Et voilà, nous avons quelque chose à donner aux autres, une trace à laisser sur cette terre. Nous avons quelque chose à faire sur cette terre. Et nous serons jugés de la manière dont nous avons vécu sur cette terre aussi, je voudrais rappeler. Notre vie doit être une vie conséquente, ou sinon inspirante, ou sinon nous verserons dans la médiocrité. La médiocrité ne glorifiera pas Dieu. Dieu veut que nous ayons des vies nous satisfassent aussi quelque part. Je ne dis pas qu'on fait cela pour notre satisfaction, mais celui qui marche dans la foi trouve en Dieu de l'assurance quand il obéit à ce que Dieu demande. On a une bonne conscience. Parce que celui qui perd la bonne conscience, il va dévier de la foi, il va arriver à autre chose. Donc c'est important de cela. Il ne laissa tomber à terre aucune parole. Verset 20, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Verset 21, l'Éternel continua à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Il continuait à lui apparaître. Je crois que c'est important. Si nous écoutons Dieu, Dieu va continuer à nous parler. Si nous ne prêtons pas attention à la parole du Seigneur, il ne va plus nous parler. Vous connaissez ça? Et il arrive un des temps où Dieu ne parle plus. Parce que Dieu a parlé, on n'a pas fait attention, il ne parle plus. Il faut peut-être revenir au point de départ, là où on n'a pas écouté, on a fait notre volonté. Et voilà. Et donc l'habitude, les bonnes habitudes doivent être prises dès notre plus jeune âge, jusqu'à notre vie, nos cheveux blancs et jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous rechercher, devons acquérir les habitudes de venir à Dieu, d'écouter sa parole et faire les pas d'obéissance qu'il nous demande de faire. Si nous faisons ça, nous allons grandir. C'est ça, grandir en Christ. Hein. Qu'est-ce que Dieu veut? Eh bien, que nous puissions être à la ressemblance du Christ au travers du caractère. Et qu'est-ce qui va forger le caractère dans nos vies? C'est les habitudes. Les bonnes habitudes vont former un caractère semblable à celui de Jésus. Maintenant, il y a toutes sortes d'habitudes, les bonnes et les mauvaises. Donc, à nous aussi de voir, de prendre conscience. Tant qu'on ne prend pas conscience, il n'y a pas de changement qui va s'opérer. Il faut vraiment une prise de conscience profonde, sinon aucun changement ne s'opère. Et on reste les mêmes. Et donc, Dieu ne veut pas. Dieu veut que nous puissions grandir à la stature du Christ. Je crois que c'est tellement important. Au chapitre 7, voyez comment les choses vont évoluer, grandir dans la vie de Samuel. On voit au chapitre 7. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il le dit parce que lui-même le fait. Hein. Non, si lui-même aura encore des idoles dans sa vie, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, lui, il a entretenu les bonnes habitudes et il est cet exemple que les Israélites peuvent suivre, le modèle pour le peuple. Servez-le lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins. Verset 4. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés et servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Verset 6. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel et ils jeûnèrent en ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Il était prophète, il était aussi juge en Israël. Hein, c'était un homme de prière, il priait pour le peuple. Et également, un sacrificateur, il offrait des sacrifices au Seigneur. Et verset 7, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Verset 9, « Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. » Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah pour suivre les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il appela du nom d'Ébénézer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés, ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. J'aime beaucoup ça. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Alors que les Philistins étaient bien plus forts militairement, ils connaissaient le fer, les autres connaissaient le bronze. Mais c'est pas la même chose, une épée de bronze et une épée de fer, ça n'équivaut pas l'un n'équivaut pas l'autre. Le fer, c'est bien supérieur. Et les Philistins, ils maîtrisaient la situation de telle sorte que les Israélites ne connaissent pas la fabrication du fer. Dès qu'il y avait une possibilité pour les Israélites de commencer ça, ils reprenaient le pouvoir, les Philistins, essayaient d'empêcher. Mais pendant la vie de Samuel, ce qu'il est dit, c'est magnifique. Eh bien, qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Ainsi, les Philistins furent humiliés, ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Verset 14. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël leur arracha de la main des Philistins. Il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal, de Mitzpah et jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama où était sa maison et là il jugeait Israël et il y bâtit un autel à l'Éternel. On voit un homme formidable qui est repris avec Ézéchiel, là, la liste des trois là, avec Daniel, avec Joseph, avec... Et Samuel, bien sûr, est un homme de Dieu. On ne voit pas beaucoup de fautes chez Samuel. Regardez bien tout ce qu'on dit sur Samuel. C'est un homme qui est humble, qui se soumet à Dieu, qui écoute Dieu, qui ne laisse tomber à terre aucune parole du Seigneur. Il a vraiment des bonnes habitudes. Il a vraiment une vie qui plaît à Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui parle et continue à lui parler. Voilà pourquoi, quand il prie, Dieu l'exauce. Voilà pourquoi les ennemis doivent reculer. Prie, continue à prier pour nous. Et quand Samuel prie, les ennemis, ils n'ont pas le dessus. Et je crois que nous sommes faits de la même chair, n'est-ce pas? Élie n'était pas d'une chair différente. Il a fait des exploits extraordinaires, des miracles extraordinaires. Et Samuel, eh bien, c'est de la même chair que nous. Si nous obéissons, si nous mettons en pratique les habitudes qu'avait Samuel dans sa vie, nous allons grandir, comme nous avons vu qu'il a grandi, évidemment physiquement, mais aussi spirituellement avec le Seigneur. Et il va y avoir une révolution dans nos vies. Et ça va faire peur à l'ennemi. Et l'ennemi ne veut pas ça. Mais justement, nous devons vouloir, plus que toute autre chose, avoir les caractéristiques de Jésus-Christ dans notre vie, la manière de vivre qui va plaire à Dieu, les habitudes qui vont fonder une vie solide en Christ pour être des disciples à la ressemblance de leur maître. Alors, je peux vous assurer que des choses vont changer. Notre vie de chaque jour détermine ce que nous serons plus tard. Voilà, je crois que c'est tellement important. Samuel a commencé de faire ses premiers pas de foi et d'obéissance avant d'en faire de plus grands. Je crois que c'est très important. Chaque jour, nous avons la possibilité, à notre niveau, de faire des pas de foi, de faire des pas d'obéissance. C'est cela que Dieu demande. Il ne demande pas des prodiges, des choses extraordinaires. Bon, maintenant, allez, tu vas en Afrique, tu vas louer une grande tente, tu vas la planter dans un stade et allez. Voilà. Il ne demande pas, ce serait bien, mais Reinhard Bonnke l'a fait. Mais il a commencé par une révélation de la part de Dieu quand il avait 9 ans. Et Dieu lui a montré que c'était là-bas qu'il devait aller. Hein, il a commencé par l'Afrique du Sud, il est remonté dans l'Afrique. Parce que Dieu lui avait donné toute l'Afrique. Mais il a commencé, et quand il a commencé à faire des disciples, il y en avait un, deux, trois, une dizaine. Ce n'était pas plus brillant que quand on commence une œuvre ici en Wallonie. Hein, d'accord ? Mais il a travaillé de cette manière-là. Il a travaillé de cette manière-là. Hein, ça nous fait penser aussi au frère qui est parti à l'île Maurice de la Réunion. C'était comment déjà ? Le frère français là, qui était dans les Cévennes, dans les Cévennes, je pense, hein, dans une petite ville des Cévennes. Et il y avait 7 frères et sœurs, des personnes âgées en plus, avec la famille Pastor. Ils étaient 7 et ils prêchaient tous les dimanches, et je pense qu'il y a même 2 endroits où ils prêchaient, ils étaient 7. Et le fils a dit, bon, il faut arrêter, c'est pas possible de continuer à prêcher pour si peu de monde, qu'est-ce qu'on fait là, ça ressemble à rien. Mais il continuait, parce que Dieu lui avait montré, puis quand Dieu l'a appelé à partir, c'est le frère, pas grave, on reviendra à ça. Il est parti à l'île Maurice, l'île de la Réunion. Il a commencé à évangéliser. Il y a eu des miracles qui se sont produits, des guérisons fabuleuses. Et simplement parce qu'il était habitué, lui, de se lever à 5 heures du matin et de prier jusqu'à midi. Ouais, il priait et il lisait la Bible. Hein. Il étudiait la parole de Dieu et il priait de 5 heures du matin à midi, systématiquement, tous les jours. C'est l'habitude. Donc la prière, l'école de Dieu pour lui c'était la prière et la parole de Dieu, hein, comme dans les actes des apôtres où les apôtres ont dit non, on doit d'abord servir Dieu en lisant la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu et en pratiquant la prière. Donc ils ont demandé à d'autres diacres, des diacres, hein, des serviteurs, ça veut dire serviteurs, hein, Étienne, Nicolas, etc., de s'occuper des veuves, etc., pour qu'elles aient tout ce qu'il faut, etc., pour de s'occuper des choses matérielles de l'Église, afin qu'eux s'occupent aux choses essentielles. Les deux choses essentielles, c'est la prière et la parole de Dieu. Et le frère, ça me reviendra avant la fin de quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a vu, ce frère-là, avec son épouse et les enfants, hein, les garçons. 3 garçons. Et ils ont vu un réveil extraordinaire à l'île Maurice, à l'île de la Réunion. Ben, vous devez connaître ça. Hein. Cizeron. Ben, voilà, le pasteur Cizeron. Voilà. Le pasteur Cizeron, comment ne pas le nommer. Hein. Et c'est dans les années 60. Voilà, c'est lui. Donc, dans l'île de notre chère sœur. Et les personnes venaient tout près de lui. Et s'ils parvenaient à toucher le bord de son vêtement, ils étaient guéris de n'importe quelle maladie. Mais comme Jésus, le Cizeron n'est pas un dieu, hein, il n'a pas une assiette au-dessus de la tête. Mais c'est quelqu'un comme nous, de la même nature, mais simplement, il croyait à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vraie. Hein. Il y a des gens qui se posent la question encore aujourd'hui, est-ce qu'il faut y croire, hein. Il y a des gens qui nous ridiculisent, mais peu importe. Mais le pasteur Cizeron, il croyait vraiment que cette parole est une parole véritable, puissante, vivante, vivifiante, et que si on impose les mains aux malades, ils seront guéris. Et c'est ce qui s'est passé. Des démons ont été chassés, des gens démonisés par toutes sortes de choses, les vaudous et tout ce qui se passe dans les îles, hein, et ailleurs, eh bien... On a vu ces gens complètement délivrés, guéris, etc. Parce qu'un homme y a cru. Parce qu'un homme avait des disciplines de vie. Hein? Et il répondait à l'appel de Dieu. bien sûr, hein, parce que si on n'a pas l'appel de Dieu, on ne va pas faire ces choses-là. Mais quoique, il est dit que tous les chrétiens aussi auront la puissance de chasser les démons. Hein. Je pense que ce n'est pas seulement nécessairement qu'un pasteur qui a ce don-là particulier. Je pense que nous pouvons faire des choses de la part de Dieu. Ben, maintenant, nous sommes tous appelés à quelque chose. Sachons, hein, tout le monde ne sera pas pasteur, hein, nécessairement. Peu importe. On est tous des témoins, on est tous des gens qui peuvent apporter une bénédiction dans ce monde et Dieu va nous utiliser avec puissance. Hein. C'est comme l'église de Cloud Hout à Longueuil au Canada. Il n'y a pas que lui qui fait l'œuvre de Dieu là-bas. Il y a toute une équipe et toute l'église est engagée dans l'œuvre sociale, dans le témoignage. Il y a des centaines de personnes qui œuvrent pour la gloire et le royaume de Dieu, des centaines, et voire des milliers. De personnes, ils sont plus de 4000 là-bas, et il y a des tas de chanteurs, etc. Il y a les dons se trouvent chez chacun. Nous avons tous au moins un don à mettre en pratique, mais tout cela dépend des habitudes que nous avons à entretenir. Il y a des gens qui ont été appelés par Dieu, il y a des gens qui ont des dons spéciaux de la part de Dieu, mais si nous n'avons pas les bonnes habitudes, par exemple, nous sommes toujours en retard. Vous êtes toujours en retard. Si nous sommes en retard pour prendre le train, parce que il faut 25 minutes pour y aller, à la gare, et pile, on part, mais tôt ou tard, on va louper le train. Ça va t'arriver, hein. Vous en faites pas. Hein. Mais il faut prévoir avec un petit peu d'espace-temps supplémentaire parce qu'il peut y avoir un tracteur sur la route et toutes des bêtises pareilles. Nous sommes. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Le temps avec Dieu. Si nous sommes trop occupés, nous n'avons peut-être plus le temps de lire la Bible, mais est-ce normal, hein? Si nous sommes trop occupés, il y a peut-être des choses à éliminer. Est-ce que Dieu veut que nous soyons trop occupés au point de ne plus avoir le temps de lire la Bible et de prier? Je veux bien qu'un jour ou l'autre, il puisse y avoir tellement de choses à faire qu'on n'en sorte pas. Ça peut arriver. Et Dieu n'est pas pointilleux. Hein. Il y en a qui pourraient être plus royalistes que le roi, plus catholiques que le pape, et plus sévères et exigeants que Dieu. Mais Dieu comprend tout. Mais si c'est tous les jours que ça se produit et qu'on a toujours de trop et qu'on n'a plus le temps de prier et de lire la Bible, il y a quand même un problème. Il y a un sérieux problème et peut-être que là, il faut revoir, tiens, mais quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui est à éliminer dans ma vie pour renourrir ma vie spirituelle? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Et c'est des questions que nous devons nous poser afin de réinstaurer des disciplines de vie qui vont créer des habitudes de vie qui vont former notre caractère. Et ce caractère-là, Dieu va pouvoir l'utiliser pour sa gloire. Et Dieu ne va pas pouvoir nous utiliser par manque de consécration, par manque de ces habitudes qui vont créer justement cette préparation, qui vont nous préparer à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. C'est important. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous accordera de plus grandes. Mais si nous ne sommes déjà pas fidèles dans les petites, comment est-ce que Dieu pourra nous confier de plus grandes? Samuel a été fidèle en peu de choses. En peu de choses. Ça nous parle de la parabole des talents, celui qui avait 5 talents, celui qui avait... qui avait 2 talents, et puis celui qui avait 1 talent, il l'a enfoui dans la terre. C'est dommage. Il n'a pas porté de fruits. Dommage. C'est la conception aussi, la manière de penser. Et donc, notre manière de penser. Des fois, nous avons beaucoup de négativisme dans la tête. Nous avons des pensées négatives. Et si nous laissons les pensées négatives contrôler notre vie, il y a beaucoup de choses qui vont être abandonnés aux mains de l'ennemi. Et nourrir notre vie intérieure pour que nos pensées soient positives, c'est laisser à Dieu la priorité. Hein, quand je prends un temps avec Dieu et je dis non, je veux adorer Dieu, je veux remercier Dieu pour tout ce qui m'arrive. Je ne vais pas commencer à dénigrer mes problèmes, à dénigrer ma situation, à m'attrister sur tout ce qui m'arrive. Ce n'est pas juste. Hein. C'est qui disait ça? C'est trop injuste, c'est comme les héros. Donc on n'est pas comme les héros. Non. Dieu, il a prévu des choses merveilleuses. On a vu dimanche passé, Joseph, ben oui, il veut servir Dieu, il veut faire de belles choses, c'est magnifique, Dieu lui révèle, et puis paf, il se retrouve rejeté par ses frères au fond d'un trou. Et puis, il désire de tout son cœur que ces belles choses que Dieu a prévues pour lui arrivent, et finalement, il est vendu comme esclave. Et finalement, d'esclave, il est jeté en prison à cause des mensonges de la femme de Potiphar. Enfin, tout s'effondre. C'est vrai. Mais Dieu n'avait pas fini avec lui. Et ça, c'est important. Dieu nous fera toujours sortir des prisons, mais n'embrayons pas dans la pensée de l'adversaire, qui sont des pensées de défaite, des pensées de découragement, des pensées de dénigrement, d'apitoiement sur nous-mêmes. Et toutes ces choses vont nous ralentir, empêcher l'œuvre de Dieu de se produire dans nos vies, empêcher les promesses de Dieu d'arriver à terme. Et nous devons vraiment revenir au Seigneur et réaliser qu'il a des choses merveilleuses à nous faire vivre. Et c'est ainsi que nous ferons des petits pas dans l'amour et dans la fidélité. Hein, je crois que c'est important. Et Dieu nous récompensera. Il y a des pas d'amour à faire, des pas de foi, des pas d'obéissance. Chaque jour, voyons ce que nous pouvons faire. Voilà, une des choses qu'on peut faire, c'est au moins témoigner à une personne. Tous les jours, essayez enfin. Bon, si un jour, il n'est pas arrivé, c'est pas grave. Mais c'est un objectif qu'on peut poursuivre. Tiens, je vais témoigner, je vais prendre un automobiliste quand je le vois, en voiture. Ça ne me coûte pas grand chose de ne pas m'arrêter non plus. Je suis pressé, je ne pense pas à ça, j'ai autre chose à faire et je n'ai pas beaucoup de temps. Et quelquefois, on loupe des occasions. Vous faites du bien à quelqu'un, est-ce qu'il ne peut pas écouter quelque chose de beau sortant de votre bouche? Donnant. Hein, vous lui faites du plaisir et peut-être que ce que vous allez dire peut être une bénédiction pour lui. En tout cas, cette personne va vous écouter parce que quand même. Il est dans votre voiture, déjà, vous lui faites plaisir et c'est bien, quoi, c'est sympa. Peu importe ce qu'il pensera après. Mais l'important, c'est que nous soyons des témoins. Je crois que c'est important et je réalise que c'est tellement important. Les bonnes habitudes vont nous donner de l'assurance, ça c'est sûr, et il faut les entretenir journalièrement. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que chacun de nous fait pour atteindre vos objectifs? Vous avez des beaux objectifs, non? Les objectifs que vous avez, certainement, il doit y avoir certainement dans vos objectifs des choses plus grandes que ce que vous êtes déjà arrivé à faire jusqu'à maintenant. Que si l'objectif, c'est déjà ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant... Alors, il n'y a pas une recherche très grande, c'est humain, ça, c'est tout le monde a au moins ces objectifs-là, d'arriver à être ce qu'on est déjà arrivé à faire. Mais il faut quelque chose de plus grand. Il y a un dépassement. Dieu veut nous ouvrir à la réalité de la vision qu'il a pour nous. Hein, il y a un projet qui est sur notre vie, il y a quelque chose de beau, de magnifique, et il faut que nous connaissions la volonté de Dieu. En plus, la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Hein? Même si à certains moments de notre vie, des fois, on n'est pas d'accord, mais à un moment donné, acceptons que Dieu a une volonté bonne, agréable et parfaite. Il est très bon pour nous. Et même si nous traversons des épreuves, et ça, c'est là où il y a un problème, c'est que quelquefois, nous sommes dans des épreuves et nous n'en voyons pas le bout, et c'est vrai qu'il y a peut-être des bénédictions après, etc., mais c'est des fois difficile de se dire non, il faut persévérer. C'est justement cela qu'il faut faire, c'est persévérer, comme Joseph a persévéré dans ses difficultés, il avait un bout au tunnel dans lequel il était. Il y a toujours un bout au tunnel. Mais il ne reste pas toute la vie, il y a de l'éternité dans le tunnel. Il y a un bout, hein, où on va voir la lumière. Les ténèbres vont se dégager, on verra la lumière, on est sorti. On a réussi. Et on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Il nous fait toujours sortir. Et donc, savoir se créer des habitudes, c'est très important, surtout des habitudes qui durent. C'est très important d'avoir des bonnes habitudes. Et des fois, on va voir un certain monsieur X à 7h12 qui fait son footing, son jogging, toujours à l'heure. Ah, quel sportif ce gars-là. C'est bien. Toujours, à la même heure, là, tous les jours. Extraordinaire. On se dit, wow, j'aimerais bien être comme cette personne. Et c'est vrai que les habitudes vont nous façonner. Hein. Les habitudes se voient parce que les autres nous observent. Et alors, on nous met dans des catégories. Et peut-être que nous mettons les autres dans des catégories aussi. Hein. Sportif, feignant, maladroit, agréable, souriant, antipathique, séduisant, timide, non-fumeur, etc. Et si on change d'habitude, on va sans doute changer de catégorie aussi. Et on peut toujours changer de catégorie. Hein, parce que nous avons une image de nous-mêmes. À l'intérieur de nous, nous pensons quelque chose de nous. Oui, nous avons l'idéal, l'image idéale de Pascal, mais l'image aussi réelle que Pascal connaît. Hein. Mais on doit aller vers autre chose, vers quelque chose de plus grand, et on doit toujours s'approcher d'un modèle supérieur qui est le modèle de Jésus. Hein. C'est Jésus notre modèle. Hein. On n'est pas encore arrivé. Qui est déjà arrivé à la stature parfaite de Jésus-Christ? Donc, ça veut dire que nous pouvons encore et nous devons encore nous améliorer beaucoup, hein, et donc grandir avec le Christ. Et il y a un plan d'action pour atteindre un objectif. Je crois que c'est important. Une habitude, ça converge, une bonne habitude en tout cas, converge vers un objectif précis, un plan d'action qui est spécifique, qui est mesurable, avec des dates d'échange. Si vous voulez courir, vous n'avez jamais couru depuis des années et des années, eh bien, il y a des coachs sportifs qui vont vous dire, voilà, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez marcher un certain nombre de mètres, puis courir un petit peu, puis marcher un certain nombre. Et bien sûr, si vous faites ça pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, après, on passe à autre chose. On va courir, on va marcher un peu moins, on va courir un peu plus, et un peu plus, la distance sera plus longue. Et pour finir, au bout d'un certain temps, vous ferez les 20 km de Bruxelles. D'accord? Et donc, tout est possible à celui qui croit. Hein, hein, notre frère José qui va dans des salles de muscu depuis très longtemps ou qui a été. Ben voilà. Donc, et c'est comme ça qu'on peut régler des problèmes de dos. Mais au niveau spirituel, c'est pareil. Au niveau spirituel, c'est pareil. Donc. Celui qui s'est créé des habitudes, c'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a un plan d'action, c'est quelqu'un d'intelligent, de stratège et d'ambitieux. Vrai, hein? C'est une personne qui a appris à se connaître, il sait gérer sa force de volonté, sa force, gérer l'effort et se motiver. Je crois que c'est très important tout ça. C'est une personne psychologiquement forte. Hein, et on peut devenir, même si... Ouais, j'ai pas l'impression d'être une personne psychologiquement forte, mais je peux le devenir, justement. Voilà un bel objectif, devenir psychologiquement fort. Et si j'acquis ces bonnes habitudes, je pourrais prouver par donc le fait de persévérer que je suis psychologiquement fort. Même dans les moments où j'aurais pu sombrer avant, je continue quand même. Et ça, c'est important. Et donc, on va investir, on va faire des choses nouvelles, on va rencontrer de nouvelles personnes, et donc, il va y avoir des aptitudes qu'on va acquérir. Et bien sûr, manger sainement, par exemple, hein, faire du sport, travailler intelligemment, construire un réseau d'amitié, proactif, se fixer des objectifs. Toutes ces choses sont bonnes, et au niveau spirituel, c'est aussi important. Lire la parole tous les jours. Par exemple, si je me fixe de lire trois chapitres de la Bible tous les jours, c'est possible. Ça ne vient qu'à moi, hein, ou à vous. Donc, ou 10, il y en a qui disent, voilà, 10 chapitres tous les jours. Ben, si c'est votre objectif, il n'y a aucun problème. Lire ce livre-là en entier, en X temps, etc. Et la Bible, bien sûr, hein, que nous devons lire. Et nous pouvons aussi avoir des temps de prière qui grandissent aussi. Mais qu'est-ce que je fais chaque jour pour atteindre mon objectif? Toujours, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je mets en place? Et c'est la mise en place. Parce que connaître les bons sermons, ce n'est pas difficile. Hein. Ah oui, je sais qu'il faut... Ah oui, ça va aussi, ça. Je sais ça, mais bon, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? C'est ça le problème. On sait plein de choses, on a une tête pleine de connaissances, mais qu'est-ce qu'on réalise avec ça? Et comme les vins qui sculptent au cours du temps les falaises d'Étretat, donc c'est en Normandie, les falaises d'Étretat sont sculptées par le vent et par la mer. C'est magnifique, c'est de belles falaises extraordinaires. Allez voir ça sur Google. Donc les falaises d'Étretat. Eh bien, de même que le vent et la mer sculptent, eh bien, nos habitudes vont nous façonner. Ça va nous construire ou nous détruire. Si c'est les mauvaises habitudes, celui qui boit prend l'habitude de boire son petit pinard et puis pour finir, ça devient une bouteille et demie. Ça va nous démolir pour finir. Ce qui pouvait être une joie en couple, en famille, etc. Si on ne fait plus que de boire, ben ça, c'est plus un plaisir. Ça va nous détruire. Alors que ça peut servir à quelque chose de sain, mais ça peut être une destruction pour nos vies. Et l'homme moderne, vous savez comment est-ce que ça se passe? 9 heures par jour, oui, de position assise pour certaines personnes. Hein. Il y a des personnes qui restent 9 heures sur une journée assise. 3 heures et demie en regardant la télévision. Et bien d'autres choses. Donc je vais dire, les habitudes nous modèlent, nous façonnent. Hein. Il y a des gens qui sont peut-être dans des maisons de retraite et qui pourraient être en bonne santé et courir, faire les 20 km de jogging de bicycle. Et qui sont peut-être dans une maison de retraite parce qu'ils n'ont peut-être pas veillé à leur corps. Et au niveau spirituel, c'est pareil. On peut se retrouver dans la médiocrité spirituelle alors qu'on devrait être des maîtres spirituels. Hein. C'est ce que l'auteur aux Hébreux nous dit. Vous devriez déjà être des maîtres au niveau de la connaissance de la parole et de la mise en pratique de la parole, et vous en êtes encore au rudiment. Hein, c'est bien que nous avons à croître, à grandir et à placer des objectifs dans nos vies, des habitudes qui vont façonner notre vie. Créer des habitudes qui durent, c'est une compétence de champion. Qu'est-ce qu'ils font les champions? Les grands sportifs de haut niveau, qu'est-ce qu'ils font de spécial? Mais il ne faut pas seulement que de l'entretien. Hein. Il ne faut pas simplement 500 mètres de jogging. Non, celui qui fait de la natation, par exemple, un grand champion de natation, ben, il fait peut-être 5 heures dans le bassin, 5-6 heures tous les jours. Hein, ce n'est pas de petits plongeons, il y va, quoi. Hein. Donc, c'est ainsi, il n'y a rien à faire. Hein, notre ami Valentin, qui progresse en basket, ben, il le sait. Il y a des disciplines à mettre en pratique pour arriver à évoluer, à grandir, à devenir vraiment ce qu'on peut devenir de plus élevé. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Et si c'est magnifique dans ce domaine, c'est magnifique aussi. Ça peut être magnifique au niveau spirituel. Voilà, c'est toute habitude, une bonne habitude, c'est une action qui vous pousse vers le haut, qui vous tire vers le haut, qui vous amène à un niveau supérieur. Et c'est ça, c'est vraiment chercher à entrer dans une dimension nouvelle, à l'étape suivante. Il y a une étape suivante. Il y a une étape plus haute. Il y a un défi pour nous, aller plus haut. Hein? Pas faire du statu quo. Celui qui fait du statu quo, en général, il régresse. Celui qui dit, bon, ça va, je m'entretiens. Hein? Ça veut dire, on se tasse. C'est pas bon, il faut aller de l'avant. Une habitude, c'est comme un satellite qu'il faut mettre en orbite. Alors, pour satelliser, hein, pour mettre un satellite en orbite, eh bien, il faut une grosse fusée au départ, hein, qui va consommer beaucoup de fuel pour le mettre en orbite. Ça, c'est une dépense d'énergie, c'est très difficile à mettre en œuvre. Très difficile, parce qu'elle peut exploser en plein vol et certains ne décollent même pas. Donc, c'est pas évident. Hein? Des fois, on dit, oui, je vais aller au fitness. Et vous savez combien ceux, au début de l'année, hein, sur 100, je ne sais plus, ceux qui commencent à s'engager en disant, cette fois-ci, je suis résolu, il faut absolument que je fasse du sport et je vais aller dans la salle de muscu toutes les semaines. Et puis, 3 mois plus tard, ils ont déjà abandonné. Ils ont payé pour toute l'année. Donc, les dirigeants des salles sont très contents parce qu'ils ont quand même gagné. Hein. Enfin, c'est parce que ce n'est pas facile. Parce que le départ est difficile. Comme mettre sur orbite un satellite, il faut énormément d'énergie. Et puis après, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il faut brûler 80% du fuel pour sortir de la stratosphère. Après ça, tout devient plus facile. Et finalement, le satellite tourne tout seul. Il n'y a plus besoin de l'alimenter. Il est géostationnaire. Et je vous invite à avoir des habitudes qui font de vous des géostationnaires, d'accord? Pas des gens stationnaires qui ne font rien, mais dans le sens que Dieu vous aidera. Il est de toute façon avec vous, il vous accompagne dans le moment pour arriver à cheminer vraiment une habitude à ce qu'elle soit véritablement inscrite dans la durée. Et une fois qu'elle est inscrite dans la durée, ce n'est plus difficile. Allez demander à un sportif qui court une demi-heure tous les jours, après 3 mois, s'il a dur de faire ça. Il vous dira, mais non, j'en ai besoin, c'est normal, c'est ma respiration, c'est ma façon de vivre, c'est moi. Mais au départ, c'était dur, parce que le fait de ne plus l'avoir fait pendant des années, ça c'est difficile de sortir de cette mauvaise habitude qu'on a eue d'être trop paresseux, je veux dire, peut-être. Et puis arriver à faire ça, et c'est vraiment tellement différent. Mais après, voilà, c'est comme le satellite qui est mis sur orbite. Et ça roule. Ça y est, maintenant il y est. Et donc il y a d'autres habitudes à mettre en place. Il n'y en a pas qu'une. Hein? On pourrait en avoir 20 à mettre en place, ou plus. Et je crois que c'est tellement important. Et quand est-ce qu'il faut commencer pour que ça marche? Les nouvelles habitudes. Ben, maintenant. Il ne faut pas attendre. Si vous attendez, vous dites dans un an, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, peut-être bien que je pourrais commencer dans 5 ans. Oui, ce serait bien. Puis 20 dans 10 ans, et puis après, ma vie est passée, elle est finie. Voilà. Hop, les habitudes, ce n'est pas à 100 ans que je vais les commencer. Enfin bon, si on vit jusque-là, tant mieux. Mais il sera peut-être trop tard un jour. Donc il faut commencer maintenant et commencer doucement. Si on commence trop vite, on va se décourager. Hmm? Et voilà, on peut aussi modifier son environnement, aussi avoir les bonnes personnes qui vont nous encourager autour de nous. Hein, et s'il y a des personnes qui nous découragent pour aller plus haut et pour faire mieux, peut-être changer d'environnement. Quand c'est possible, c'est pas toujours possible, mais en tout cas, être en relation avec des gens qui nous poussent vers le haut. Je crois que ça, c'est important. Si on loupe un jour, ce n'est pas grave, ce n'est pas une catastrophe. Et on peut recommencer et faire des petits pas. Et ça, j'aimerais bien de mettre l'accent là-dessus. Faire des petits pas chaque jour. Dieu ne nous demande pas de faire des grands pas. Dieu ne nous demande pas de faire des grands pas. Dieu nous demande de faire des petits pas qui sont à notre taille, je veux dire. Et puis, si nous arrivons à les faire d'une manière journalière, il y aura d'autres choses qui arriveront. Pense. Et les bonnes habitudes vont semer des bénédictions que nous récolterons avec fruit plus tard, même si au départ elles sont difficiles à maintenir dans la durée. Les bonnes habitudes vont semer des bénédictions et nous allons récolter plus tard ce que nous aurons semé. Je crois que c'est important, hein. Osée chapitre 8, verset 7, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Nos vieilles habitudes, les mauvaises habitudes, elles sèment du vent. Et on moissonnera la tempête avec ça. On moissonnera rien du tout. Maintenant, si j'installe et j'inscris dans la durée de bonnes habitudes dans ma vie, je vais semer quelque chose pour plus tard. Galates chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc, je vais semer avec de nouvelles habitudes quelque chose que je vais récolter plus tard. Je vais déjà le récolter éventuellement assez rapidement, peut-être pas au départ, parce que c'est dur. Hein. Comme je l'ai dit tantôt, les nouvelles habitudes, quand on les démarre, c'est pas facile. Le découragement n'est pas loin. Il faut continuer, il faut persévérer. Et à force, eh bien, nous y arriverons. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Hein, » Quand nous semons, c'est quelquefois avec larmes. Nous allons récolter avec joie. Donc il y a des fois des larmes pour inscrire des habitudes qui sont valables dans nos vies. Mais il va y avoir un fruit de justice qui va apparaître. Aux yeux des autres aussi, à nous aussi, parce que nous allons être les premiers récompensés de cela. Hein? Et Samuel a appris l'obéissance par la pratique journalière des actes qu'il faut poser, de l'écoute envers Dieu. Il écoutait Dieu tous les jours. Il ne laissait tomber aucune parole de Dieu à terre. Ça, c'est important, ça. Tous les jours. Et quand Dieu lui a demandé de faire de plus grandes choses, il était prêt. Il était là. Quand on n'a pas cette pratique, et Dieu nous demande de faire des choses, mais nous n'y serons pas. Nous ne pourrons pas si nous sommes toujours en retard, si nous ne sommes pas prêts dans notre vie, si nous sommes en désordre. Il y a des choses qui ne pourront pas se faire. Sa vie de tous les jours l'a prédisposé à être ce qu'il a été. La vie de tous les jours, de chaque jour. Apprenons à maintenir de bonnes habitudes qui vont façonner notre caractère. Je crois que c'est tellement important. Les bonnes habitudes façonnent notre caractère. Ainsi, chaque jour qui passe nous rapproche de notre objectif, servir le Christ pour sa gloire, parce que nous allons être bientôt près de lui. Hein? Mais je crois que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions exceller dans ce que nous sommes. Nous avons des qualités, nous avons des compétences et nous pouvons les agrandir, nous pouvons les affiner, hein, en ayant ces habitudes qui vont faire de nous des aides que Dieu va pouvoir utiliser pour sa gloire. Nous allons prier ces instants.